Ushuaïa est une ville qui semble s'être construite en deux jours, faite de maisons de tôle ou plus solides, qui paraissent posées de manière désordonnée sur les flancs de la montagne. Paysages sauvages, embarcations abandonnées, lumière changeante en permanence, nuages qui se déplacent à grande vitesse, noircissant le ciel, ou laissant la place à un soleil puissant, l'atmosphère qui s'en dégage est impressionnante.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage dans notre imaginaire, c'est aussi un voyage dans le temps puisqu'il parle aux petits et aux grands. Vous le connaissez si vous avez des enfants, il remplit des zéniths avec ses enfantillages. Il a d'abord écrit des textes pour les adultes et puis il se sentait un peu à l'étroit, alors il a choisi un autre public. Et quel public ? Il s'apprête à faire un tour du monde des enfantillages qui sortira en novembre 2021. Il va, pour ouvrir notre discussion, nous faire découvrir un inédit qui apparaîtra sur ce prochain album.
Élodie Font, chacun sa route, sur France Inter.
Emmène-moi. Dans ma chambre, ma petite lumière représente une map monde. Quand je rêve de partir en mer, je m'éclaire avec le monde. Des cimes au fond des abysses, je veux jouer les Gulliver. Heureux qui Comulis a su changer d'itinéraire. Papa, maman, voilà mon plan. Nous allons boucler les valoches. En panoplie de Magellan, on va éteindre la téloche. J'aimerais prendre mon envol, bourlinguer, naviguer, sillonner. L'univers est une école, ma planète une cour de récré. Y a-t-il un diplôme de promeneur et des cours de baguenaudage? Un cursus globetrotter, une faculté de pèlerinage? Emmène-moi. Justifier que la Terre est ronde, tailler la zone au bout du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur, c'est le chemin. Emmène-moi, voyager l'âme vagabonde, goûter à la beauté du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur, c'est le chemin.
Bonjour Aldebert.
Bonjour.
Merci pour ce cadeau.
Merci
ce
à vous.
Ce texte, c'est un inédit qui figurera sur l'album Enfantillage autour du monde, qui sortira, je le disais, en novembre 2021. Vous avez déjà écrit tout l'album ?
J'ai une bonne partie, j'ai une dizaine de chansons là pour l'instant.
Et pourquoi sur cette dizaine vous avez choisi celui-là ?
Ben, c'était un peu le plus représentatif, c'est-à-dire que voilà, on est un peu sur une espèce d'invitation au voyage, une ode au voyage, et il est tombé assez naturellement en fait parmi les textes que j'ai choisis. Il y aura des invités, il y aura des musiciens invités, des chanteurs ou des chanteuses invités. C'est encore en chantier pour l'instant.
Encore en chantier. Et d'ailleurs, c'était censé être un petit peu moins en chantier que ça, mais vous avez été stoppé.
Ah bah carrément. Ouais, ouais.
Vous avez été stoppé au tout début du coronavirus puisque vous étiez censé partir pour une tournée en Asie. Et puis, au moment où vous revenez de la Réunion, vous avez commencé à la Réunion, au moment où vous revenez, ça s'arrête. Vous en êtes où là exactement ?
Alors, on a pu déplacer l'essentiel des voyages et des concerts, donc ça c'est chouette. On a une grande partie des concerts qui sont reportés à janvier-février 2021. Donc ça c'est bien, toute la partie asiatique. C'est vrai qu'on avait commencé à la Réunion juste avant le confinement. On avait rencontré des musiciens, donc on a pu enregistrer des locaux. Ça c'était chouette et puis on avait démarré les balances du concert dans un super beau théâtre en plein air et tout, c'était vraiment magnifique. Et puis au moment où on a posé les guitares, où on s'est dit bon bah c'est bon, le son il est réglé, c'est nickel, on va se poser en loge, attendre le grand moment, le directeur du théâtre est venu, nous a dit c'est fini, plié, vous rentrez.
Ah
faut
oui,
rentrer chez vous.
Vous avez même pas pu aller jusqu'au bout en fait
non,
à la Réunion.
C'était incroyable. En plus, c'est vraiment tombé. C'était une espèce de. C'était assez symbolique en fait. C'est vraiment fait couper les jambes quoi pour le coup. Et on est rentré. Voilà. Après, on n'est pas. On va se relever. Hein, on va continuer. Mais c'est plutôt bien parti. Du coup, on a articulé notre travail un peu autrement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup avancé l'écriture, les arrangements, la production, la recherche d'invités. Et puis on va voyager à la fin. Donc on fait un petit peu à l'envers.
L'idée de l'album, c'est d'aller enregistrer dans plusieurs pays de la planète avec des musiciens locaux, c'est ça, des titres à vous.
Oui, c'est ça. On part quand même avec des maquettes assez abouties. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, il y a des choses qu'on va organiser, qu'on va préparer en amont. Mais l'idée, c'est de colorier les chansons d'enfantillage. Moi, j'avais envie, donc là, comme c'est le quatrième opus, de me renouveler, de me mettre un peu en danger pour éviter le côté recette, quoi. Et donc, voilà, cet enfantillage autour du monde, ça permet d'emmener enfantillage ailleurs, d'emmener de l'ailleurs dans enfantillage et d'essayer autre chose, quoi.
Ouais. J'adore parce que vous avez un t-shirt
t-shirt Black Sabbath.
Oui, qui a sorti mes lunettes de soleil, les auditeurs ne le voient pas, mais voilà, c'est vrai que j'ai un t-shirt Black Sabbath.
Ouais, je trouve ça très drôle.
Donc, la c'est un réunion, voyage aussi. Hein. C'est un voyage aussi.
Exactement, c'est un voyage aussi. Pourquoi avoir choisi justement de voyager un peu partout sur la planète, puisque vous auriez pu finalement faire un album un peu différent et aller le faire pas si loin? Pourquoi vous avez eu envie de bouger comme ça? Pourquoi partir?
Bah, je trouve que ça inspire des chansons, ça crée des choses. Moi, mon métier, c'est vraiment un métier de rencontre, et c'est à chaque fois que j'ai invité des gens d'horizons différents qu'il s'est passé un truc. On l'a testé avec mon équipe en invitant à chaque enfantillage des auteurs, compositeurs, interprètes différents, des gens. On est passé de Didi Wampas à Alizé. On a à chaque fois fédéré des gens très différents, et je trouve qu'à chaque fois ça donne du corps à la chanson, ça l'enrichit et ça la transforme. Et ça qui est intéressant. Et la chanson va encore, elle, voyager et bouger une fois qu'elle sera sur scène, interprétée sur scène. Donc ça, c'est toujours une richesse, en fait.
Aldebert, on va voyager avec vous dans le temps et aussi dans l'espace. Vous avez déjà joué dans un festival à Séoul. Qu'est-ce que ça change de jouer dans un pays qui n'est pas le sien? Est-ce que chaque nationalité du public est différente?
Oui. Alors, j'ai pas une grande expérience parce que j'ai jamais fait de tournée internationale, mais il y a eu.
Vous avez bougé quand même dans plusieurs pays déjà.
Oui, un petit peu. Là, ça va être l'occasion d'aller vraiment loin et plus longtemps. Mais ouais, ce concert à Séoul, c'était incroyable parce que voilà, c'était un festival francophone, culture française et tout. Donc il y avait des musiciens de jazz, des musiciens de punk. Il y avait mon équipe. Voilà, on représentait un peu la chanson française à l'époque. Et c'était, ouais. Il y avait aussi du théâtre, de rue, il y avait plein de choses. Et en fait, on nous avait prévenu, on nous avait dit, tu verras, les Coréens, ils peuvent très bien applaudir en plein milieu du show, du set. Parce que
oui, ça peut être un peu perturbant.
Ouais. Il peut y avoir une attitude physique ou un truc d'interprétation qui fait que tout d'un coup, ils vont se mettre à réagir. Et du coup, pas forcément applaudir à la fin du morceau comme sont nos codes à nous, quoi. C'est la fin de la chanson, même si on n'a pas aimé, on applaudit. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très, qu'on a l'habitude de ça. Donc ça c'est arrivé. C'est arrivé, et puis alors moi je me suis amusé, je me souviens à l'époque, j'avais demandé à l'interprète qui nous accompagnait de traduire, de faire des petites phrases de présentation entre les chansons où on expliquait un peu le contexte de la chanson. Alors il y avait une chanson qui s'appelait Rentrée des classes. À l'époque, elle expliquait que voilà, il y avait cette figure du professeur Monsieur Martineau qui m'a pourri, moi, ma scolarité. Et donc, du coup, ça les a fait marrer et ça les a installés, même s'ils comprenaient pas la chanson, ça les a installés dans la chanson et dans l'univers, quoi. Donc ça, c'était chouette. Il y avait vraiment un échange. C'était rigolo.
Et est-ce que vous êtes différent sur scène quand vous êtes ailleurs? Parce que parfois, quand on est en voyage, on est différent.
Oui, je crois pas. J'ai pas l'impression, moi, de me transformer. Non, je suis pas. Je suis pas un voyageur dans l'âme, c'est-à-dire que j'aime bien, je trouve ça très excitant, mais en même temps ça me fait toujours un peu peur. Et voilà, mon métier fait que je voyage toujours, mais c'est beaucoup en France, en Suisse, en Belgique, dans un tourbus. Voilà, on voit plein de gens, plein de villes, mais ça reste un peu quand même on reste dans nos marques, quoi. Mais ouais.
Aldebert, vous êtes une star pour les enfants. En sachant
pas,
que
non.
Vous veniez aussi, en sachant que vous veniez, on a reçu des messages de hordes de fans.
Mais non.
Je voulais vous en faire écouter.
Aldebert, je m'appelle Alix et j'ai 9 ans. J'ai 3 questions à te poser. La première, à quel âge as-tu commencé la musique et pourquoi tu as voulu faire de la musique? La troisième, dans combien de pays vas-tu pour tes chansons, pour ton nouvel album? Merci.
Merci. Alors, vous allez lui répondre?
Oui, bien sûr. Alors j'ai commencé la musique assez tard. C'est-à-dire, j'ai eu une première expérience qui n'était pas très concluante, puisque c'était d'apprendre l'orgue, sachant que je voulais faire du synthé parce que je voulais jouer du Jean-Michel Jarre. C'était l'époque de Quatrième Rendez-vous, donc ça remonte. Ouais, c'est ça. Oxygène et tout ça, j'étais vraiment quelque chose qui me faisait rêver et pour le coup qui me faisait voyager, tous ces sons de l'espace et tout. C'était quelque chose de vraiment chouette. Et donc mes parents m'avaient inscrit dans des cours, mais par contre c'était de l'orgue, vous savez, l'orgue à 2 claviers avec le pédalier en dessous. Et du coup, c'était un peu frustrant parce que moi je rêvais de synthé, de boutons partout et tout, c'était un peu le laborantin que pouvait avoir Jean-Michel Jarre. Et du coup, pouf, il y avait ce truc un peu rustique, un peu sordide du d'orgue d'église, finalement, quoi. Donc, bof, un peu déçu pour le coup. Et puis, voilà, le rapport à l'enseignante, à l'époque, n'était pas gégène. Donc, du coup, c'était assez plié. Par contre, là où j'ai vraiment commencé pour répondre à Alix, c'est, je pense, vers 16 ans. 16-17 ans, la découverte de la guitare. Ouh là là ! Alors là, c'était un choc incroyable, parce que ce truc en bois, qui avait l'air de s'apprendre assez facilement, et il y avait un truc, en fait, avec la guitare, c'est qu'on avait... assez vite, on pourrait se faire plaisir. Et oh, trois accords, tiens, on a une chanson de gens qu'on aime bien entendre, qu'on entend souvent, du Renaud, du Souchon, du Chédid et tout. Ah, mais c'est possible, ça, en bossant un peu ces trois positions d'accords, tout d'un coup, je peux chanter, ça se transforme, c'est génial. Et donc voilà, là, j'ai vraiment commencé.
On a une autre question.
Bonjour, c'est Céleste, j'ai 6 ans, je suis la sœur d'Alix. Avec qui tu vas chanter ton nouvel album? Avec moi?
Bon, si tu veux, ouais. Bon, si tu veux, je t'invite. Ouais, tu viens chanter. Il y aura forcément des voix d'enfants, évidemment. On a des rendez-vous qui sont dingues. C'est-à-dire que on va normalement au Vietnam, dans la première partie de la tournée asiatique, et on doit aller dans un orphelinat qui est perché en haut d'une colline et rencontrer plein d'enfants, plein d'orphelins, et échanger avec eux, les enregistrer. Je pense que ça, humainement, ça va être assez fou. Et alors, qui on va inviter? Ça va être un petit peu au hasard des rencontres, comme je disais.
C'est vrai qu'il y a souvent des enfants sur les chansons pour enfants, et que moi, je me suis aussi beaucoup posé la question de comment vous les trouvez, ces enfants, à part peut-être quand c'est les vôtres.
Oui, alors, il y a un peu les nôtres. Il y a les nôtres de plus en plus, d'ailleurs, parce qu'ils commencent à grandir et avoir un peu d'assurance, et puis ils ont l'habitude. Ils viennent avec nous en tournée. Je sais que sur Enfantillage 3, là, on avait invité Malou, qui est la fille d'Hubert, qui avait chanté cette chanson qui s'appelle La vie, c'est quoi, qui est une espèce de dialogue entre un papa et sa fille sur les grandes questions existentielles. Et oui, c'est souvent qu'il y a de l'enfance, évidemment, et des enfants, parce que ça amène une fraîcheur, et puis c'est quelque chose de très chouette, quoi.
Bon, Céleste, il faut avoir un de vos parents, si vous nous écoutez, un de vos parents qui est musicien, quoi, grosso modo.
Pas forcément.
Non, pas forcément.
Pas forcément, non.
Aldebert prend la route avec nous jusqu'à 15h sur France Inter. Et on avait envie de vous entendre, évidemment, avec un titre très joli qui plaira aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est La vie sur France Inter. Mais qu'est-ce que c'est la vie ?
C'est quoi la musique?
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel?
Un monument au vivant.
C'est quoi grandir?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance?
De la tendresse en pyjama.
M'a dit papa, la vie, c'est quoi?
Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi. C'est toi.
C'est quoi le remords?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière?
Accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur?
C'est maintenant ou jamais. C'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi. C'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là. La vie est là.
c'est la vie. Aldebert dans Chacun sa route, jusqu'à 15h sur France Inter. Aldebert, faites-nous revenir en enfance. Si on ferme les yeux, que l'on imagine que l'on a tous les deux 6 ans, et que l'on part en voyage, est-ce que là déjà vous nous imaginez un peu?
À 6 ans, oui, c'est pas encore
6, l'âge 7, des... 8, vous préférez quel âge?
Ah, je préfère 7-8.
7-8?
Ouais, je préfère 7-8 parce que là, j'arrive dans un nouveau quartier à Besançon, donc dans l'est de la France.
Ouais.
Un quartier un peu rural. Enfin, à l'époque encore un peu rural. Et il y a, je suis dans un petit appartement à 3 pièces et dans le petit immeuble, il y a une forêt juste à côté. Et dans cette forêt, je vais construire un max de cabanes. Ça, c'est vraiment une image de mon enfance. Et ce voyage, c'est construire une cabane dans les arbres et se poser là-haut.
Regarder. Vous avez du mal à la construire ou pas, cette cabane?
Non, pas tant que ça, parce qu'il y avait... on récupérait, je me souviens, avec mes copains, des cabanes, des planches dans des vieilles cabanes qui traînaient alentour et tout. Il y avait... Et puis dans les chantiers aussi, c'est pas le truc à faire, c'est pas le truc à dire, surtout en radio, mais c'est un peu ce qu'on a fait. Des fois, on a récupéré un peu du matos comme ça. Et c'est marrant parce que pendant le confinement, j'ai refait ce voyage, en fait, avec mes enfants, de construire une cabane à 2 étages. Je leur avais un peu vendu, je leur avais dit, bon les gars, on va se faire une cabane à 2 étages dans le chêne, là, parce qu'il y avait 3 troncs. Du coup, on pouvait faire un truc, une espèce de plateforme, et on l'a fait, c'était cool. Moi, je suis un bricoleur catastrophique, quoi. Une étagère, elle tombe, enfin, c'est, voilà.
Et donc, c'est possible de faire une cabane à 2 étages en étant un bricoleur catastrophique?
Oui, c'est possible, parce que j'avais tellement envie de...
C'est un beau message d'espoir que vous, que vous proposez.
À tous les bricoleurs du dimanche, donc c'est possible, tout est possible.
Qu'est-ce qu'on voit d'en haut? Quand on est dans une cabane tout en haut d'un arbre,
on voit les maisons, la nuit on voit les étoiles, et puis on se pose, on voyage encore aussi par la pensée, par le rêve, et c'est vraiment un tremplin, en fait, c'est une espèce de tarmac finalement, cette cabane dans les arbres.
Et ça nourrit votre imaginaire, ça le nourrissait quand vous aviez 6 ans, 7 ans, 8
ouais,
ans.
Toujours.
Et ça le nourrit toujours?
Toujours, je fais ça régulièrement, c'est-à-dire que il y a beaucoup de chansons et d'idées qui viennent de la cabane, mais aussi d'endroits de la nature, en fait, vraiment. Et il y a souvent des idées de chansons, celle-ci en l'occurrence, là qu'on a écouté, La vie c'est quoi, qui viennent en courant. Parce que je cours beaucoup dans la forêt, j'aime bien. Et pas forcément avec une playlist dans les oreilles, parce que des fois c'est bien d'écouter la nature et tout ça. Et il y a des trucs qui tombent, pouf, ah mais oui, une chanson là-dessus, c'est génial, mais carrément. Et ça vient comme ça. C'est-à-dire que dès le moment où je me pose à mon bureau avec l'ordi, les guitares, je me dis tiens, je vais écrire une chanson, ça marche pas forcément. La chanson arrive, l'idée, elle arrive dans un endroit différent. Dans un cadre différent.
C'est dans un cadre différent ou c'est en mouvement?
C'est souvent en mouvement pour l'instant, ouais. Ouais, il y a beaucoup d'idées. Ou alors, c'est aussi des événements. Des événements souvent heureux qui vont motiver une chanson comme ça.
Ah, vous êtes plutôt du genre à écrire après un événement heureux, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent plutôt après un malheur.
Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit souvent, ouais, il faut être en souffrance, il faut être triste, il faut avoir le spleen pour écrire quelque chose de fort et tout. Ben, pas forcément. Après, voilà, moi, je suis pas un chanteur, j'écris pas des chansons forcément tristes, mais il y a, dans cette chanson qu'on a entendue, une espèce de petite mélancolie, quand même, un petit truc. Ça, j'aime beaucoup, ces sentiments-là. Parce que c'est pas des sentiments tristes, quoi, mais c'est quelque chose d'assez confortable dans lequel je me plais bien, j'aime bien m'installer. C'est un grand coussin, en fait. La mélancolie, c'est un truc, on a envie de se poser. Et souvent des événements comme les naissances, par exemple à la naissance de mes 3 enfants, quand j'ai su que ça allait arriver, il y a des chansons qui sont tombées du ciel, c'était incroyable, quoi.
Et c'était dans la mélancolie de, comment dire, futur, que vous saviez que vous alliez ressentir en repensant à ces moments-là?
Peut-être, ouais, peut-être. J'étais tellement heureux, il fallait que j'exprime, quoi. Et pas forcément avec une chanson youpi, un truc léger ou marrant. Mais il y avait, c'était vraiment, il fallait que ça s'exprime, que ça sorte, quoi. C'est fou, quoi.
Donc c'est vivre, c'est être en mouvement, en tout cas, pour créer. C'est quelque chose qui est important pour vous.
Et vraiment pas être en souffrance. C'est-à-dire que les moments où ça va pas, par exemple, la fin du confinement, j'en pouvais plus, il y a pas d'idée, il y a rien. C'est le vide, quoi.
Ah oui, donc c'est quand même, c'est important pour vous d'être bien, quoi.
Oui, carrément, ouais. J'essaie d'entretenir ça, justement. Et après, j'ai choisi un terrain d'écriture, moi, qui m'aide beaucoup, parce que dans l'enfance, il y a l'enthousiasme, il y a la curiosité, il y a une force, quoi. Il y a une énergie. Et du coup, moi, je vais puiser là-dedans. Je l'ai constamment à côté de moi avec mes enfants et partout, à chaque fois, je vois le public et tout. Donc ça m'aide beaucoup. C'est facile, entre guillemets.
Vous vous souvenez de votre premier voyage, vous, Aldebert?
Oui. Alors, premier grand voyage. C'est marrant parce que je trouve que les voyages, c'est souvent une question d'échelle. C'est-à-dire que, avec mes parents, on allait un petit peu tous les ans au même endroit, comme beaucoup de familles, j'imagine. Et on avait la chance d'aller en Italie, ce qui était super. On allait à côté de Rimini, dans une petite ville qui s'appelle Cesenatico. C'est un ambiance Côte d'Azur, quoi. C'est assez classique, c'est pas foufou. Enfin, aujourd'hui, avec le recul, c'est pas. Mais à l'époque, pour mes parents et pour moi, du coup, c'était une expédition. On partait. Le premier voyage, c'était en Diane bleue avec la couverture sur la banquette arrière. Et là, on partait. Pour mes parents, c'était le risque. C'était une aventure. On allait vivre une aventure. Aujourd'hui, tout a changé. Les déplacements ont beaucoup changé. Ça s'est beaucoup facilité. On va en Italie. On pourrait presque aller un week-end, quoi. Mais c'est marrant. Chaque fois, c'était le truc de dingue, quoi.
Et vous avez l'impression, dans votre manière de voyager adulte, qu'il y a des choses de ces premiers voyages que vous retrouvez, en tout cas dont vous vous servez.
Bien sûr, il y a cette excitation. Est-ce que ça va bien se passer? Et puis il y a toujours cette peur aussi de l'inconnu. Moi, ça me le fait chaque fois qu'on part en tournée, quoi. Quand qu'on est dans le rythme à 3-4 villes par semaine. Au bout d'un moment, on installe finalement une espèce de routine à chaque fois quand c'est répété. Mais à chaque fois au début ou une salle, on parlait tout à l'heure des zéniths. Moi, ça se fait pas très longtemps en fait. J'ai découvert entre guillemets ce public-là et ce format de salle avec Enfantillage 3, et j'y allais un peu à reculons, comme à chaque fois qu'un truc nouveau arrive, quoi. Et finalement, j'ai adoré parce que voilà, on arrive toujours à installer un petit peu ces petites affaires, comme on dit quand on arrive dans une chambre d'hôtel ou qu'on monte sa tente. On retrouve ces marques, on s'installe, quoi.
Vous trouvez facilement des repères un peu partout.
Oui, plutôt. Mais ça n'empêche pas une petite angoisse. Ouais, il y a quand même une angoisse. Mais c'est bien. Elle est là, elle nourrit aussi le truc, quoi. Si j'étais content, il y avait aucun stress, ça n'a pas d'intérêt.
À vous chercher aussi à être angoissé, enfin ça fait partie de.
Ça fait partie du truc.
Du voyage, ouais. Ou ça fait partie de la création.
Et c'est vraiment quelque chose que je mets en parallèle avec mon métier. C'est-à-dire que mon métier, il consiste à aller jouer partout, écrire des chansons évidemment, mais la partie tournée qui est très finalement assez physique, entourée de beaucoup de monde, on est une vingtaine. Dans un tourbus, on s'installe dans une salle. Il y a un côté très calme en fait sur la journée. Chacun un peu en loge, on s'installe et tout, on fait la balance. Et tout d'un coup, il y a le public qui rentre. Et ce moment d'énergie, on va être à 3000% pendant une heure et demie. Là, il y a du stress, là, il y a une excitation. Et après, ça retombe. Et il y a toujours cette adrénaline qui est une espèce aussi de moteur. Moi, j'ai besoin de ce truc-là en fait.
Ça... Et comment vous la gérez? Parce que parfois, quand on monte très haut en adrénaline, après, on a une descente derrière pour revenir à quelque chose de plus équilibré.
Oui, c'est ça. Alors, sur une
tournée... pas une descente trop forte.
Non.
Non, ça se gère.
On s'y fait aussi. Et il y a quelque chose qui est chouette sur cette tournée, c'est que moi, je vais aller à la rencontre des parents et des enfants. Donc il y a une espèce de palier qu'on franchit, une descente, ça dure un moment, mais voilà, c'est pas non plus un CDC au Stade de France, je veux dire voilà, on descend quand même une grosse énergie et tout, mais c'est finalement un peu la même chose, mais j'aime bien moi avoir ces montées et ces descentes, ça donne du relief à la vie aussi, quoi.
Peu importe où nous sommes dans le monde, Aldebert, il existe des comptines. Partout, on raconte des histoires aux enfants. Vous, est-ce qu'il y a une histoire pour enfants qui vous a particulièrement marqué?
Je sais pas si j'ai un lieu. Moi, j'ai des souvenirs d'histoires d'enfants à la maison, simplement, quoi. J'ai pas entendu d'histoires d'enfants dans mes voyages, professionnels ou pas.
Non, pas forcément dans vos voyages, vous. Une histoire qui vous aurait marqué, enfant?
Ah, une histoire. Il y a tout ce qui concerne l'espace, en fait. Et c'est quelque chose dont je me suis servi pour écrire des chansons, parce que tout le côté science-fiction, imaginaire, que je vais croiser chez des auteurs de bandes dessinées comme Léo, par exemple, qui a fait une grande saga avec Aldébaran, Betelgeuse et tout ça. Ça me fait beaucoup voyager. Toutes ces histoires, en fait, où on va inventer des mondes. En fait, c'est vraiment mon voyage préféré, c'est celui-là, quoi. C'est imaginer des personnages, créer un univers, des gens, évidemment, comme George Lucas, qui sont des démiurges, qu'on connaît tous, et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment le voyage que j'aime pratiquer, quoi. Le voyage
et justement
imaginaire.
Pour nourrir cet imaginaire, est-ce que vous vous basez sur des couleurs, sur des histoires que vous entendez? C'est quoi qui nourrit votre imaginaire à vous?
Moi, c'est un mélange de choses très très classiques, c'est-à-dire vraiment l'environnement, de ma vie, quoi, qui est un environnement complètement classique, et puis ce qu'on va imaginer. Donc j'aime bien mélanger tout ça, et j'aime bien aussi jouer avec le temps, avec l'espace-temps. C'est-à-dire que dans les chansons, je vais incarner souvent un papa, souvent un enfant, voire un papy, et ce voyage, il se fait comme ça. Donc je peux pas vous donner un élément précis, quoi. C'est vraiment quelque chose d'imaginaire. Je pense il y a une chanson que j'avais composée pour Enfantillage 2 qui s'appelle La soucoupe volante. Et je me dis, voilà, je vais faire une chanson sur l'espace et tout. Je vais imaginer cette histoire avec un papa qui construit la soucoupe volante avec son fils dans le jardin et qui va partir après, je sais pas, faire un pique-nique sur Jupiter. C'était l'idée, quoi. Voilà. Allez, viens. Et du coup, on va acheter du matos chez le roi Merlin. Tac, on monte la soucoupe dans le jardin. Et finalement, cette soucoupe va pas décoller parce que, c'est comme ce que je disais dans la chanson Mène-moi, ce qui est intéressant, c'est la construction. En fait, avec entre le père et le fils, où ils vont monter un appareil, et puis la chanson va se finir au moment où elle va décoller ou pas. Et finalement, c'est pas important. Le voyage, il est dans la construction du truc. Et je pense à une chanson d'Archimède aussi, qui s'appelle Le bonheur est dans le pré, donc préliminaire, préparatif. Et les vacances, les voyages, il y a cette excitation de l'avant. Ouais, de l'avant. Et Archimède, les deux frangins d'Archimède parlent de cette excitation qui consiste à faire les valises. C'est vrai que le voyage, il commence là. Et des fois, c'est même mieux. Comme quand on prépare une fête, un truc. Le préparatif est souvent plus excitant.
On va reparler des comptines à l'international, puisqu'il y en a des très très jolies. Aldebert est notre invité dans Chacun sa route. C'est un groupe immensément talentueux que l'on écoute tout de suite. Les Songoy Blues avec Rory sur France Inter.
You're gonna be happy, keep working today, that smile will come one day. Don't worry, you're gonna be happy, keep fighting today, that smile will come one day. My friends come for free, when you get it free, you will lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Muffins come for free, when you get it free, you lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Let your hope come from fight, and go through your darkness, you will find your light. Don't worry, you gotta be happy.
Les Songoy Blues, dont les membres se sont regroupés après avoir été chassés de leur maison par des djihadistes dans le nord du Mali. Vous écoutez France Inter, et un peu après 14h30, tous les jours, Vous nous racontez un voyage à vous, un moment. Par exemple, si vous êtes tombé amoureux à l'étranger, ça m'intéresse. Ou si vous êtes gardien de phare. Ou si vous vous êtes construit tout un monde imaginaire. Ou si vous êtes un enfant et que vous voulez me raconter votre premier voyage. On en parlait avec Aldebert. Eh bien, racontez-nous votre ailleurs à vous. Le répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68. Mon compte sur Twitter, Elofont, E-L-O-F-O-N-T, ou via la page de Chacun sa route sur le site de France Inter. Aujourd'hui, c'est Yvan qui nous raconte un drôle de voyage en avion. Venez, Aldebert, on décolle.
Moi, j'avais à peu près 30 ans quand j'ai décidé de réaliser un vieux rêve d'enfant, celui de devenir pilote d'avion en Afrique. Je suis donc parti aux États-Unis pour passer mes licences commerciales. Et donc, quelques temps plus tard, je décide de tenter ma chance et débarque donc un beau dimanche après-midi de décembre 2002 à Libreville, au Gabon, avec mon petit baluchon et mon carnet de vol. Dès le lundi matin, je m'installe au bar de l'aéroclub et je commence à arpenter les différentes zones du parking de l'aéroport en demandant à droite à gauche s'il n'y aurait pas, par hasard, un siège de disponible. Au cours de l'après-midi, j'apprends qu'il y a un Fokker 27 qui est arrivé la semaine précédente. Et donc, je m'y rends. Et par chance, je trouve sous l'aile, en train de s'abriter du soleil, un vieux Sud-Africain qui, une fois que je lui ai posé ma question, demande à voir mon carnet de vol pour éventuellement organiser un vol le lendemain. Je suis donc très content et le lendemain, à 9h, quand j'arrive à l'avion, j'aperçois avec surprise qu'il y a plein de monde en train de travailler autour de l'avion et mon bonhomme de la veille qui lève la tête et quand il m'aperçoit, il saute dans une Jeep avec un chauffeur et il roule vers moi, il freine, ils me font monter dans la Jeep et on roule à toute vitesse direction le centre-ville, même en grillant des feux rouges. Et quelques minutes après, on arrive devant la Direction Générale de l'Aviation Civile où en quelques minutes et avec une grosse liasse de billets, le bonhomme obtient de faire valider ma licence en licence gabonaise, alors que normalement ça prend entre une semaine et 15 jours. Voilà, un quart d'heure plus tard, on est de retour à l'avion et les moteurs tournent déjà quand je rentre dans la cabine et que je constate avec effarement qu'il y a une cinquantaine de passagers gabonais en transpiration qui attendent depuis peut-être plus d'une heure. Alors je m'installe à toute vitesse dans le siège de droite, le siège du copilote, pendant que le commandant pakistanais est en train de faire les dernières préparations pour partir, je suis en train d'installer ma ceinture, de faire le tri de mes cartes. L'avion s'aligne et on décolle dans la foulée. Donc je rentre le train, je rentre les volets et on fait la checklist après décollage avant que je me retourne vers le commandant et que je lui demande « Mais where are we heading to ?»« Où est-ce qu'on va ?» Alors là, on est partis tous les deux dans un bel éclat de rire. Mais effectivement, c'était une situation un peu ubuesque. Alors le commandant m'explique qu'en fait, c'était le tout premier vol d'une compagnie à bas coût qui s'appelle la Nationale, qui aujourd'hui existe encore. Et dont le propriétaire du premier avion était sud-africain, dont le gérant était libanais, et dont l'équipage pakistanais était arrivé quelques jours plus tôt. Mais le copilote, avec un problème de visa, était resté bloqué à Dubaï. Alors évidemment, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils auraient fait si j'avais pas débarqué comme ça à la dernière minute. Et donc le commandant m'a fait un petit signe avec son pouce. Je me suis retourné et j'ai vu un gigantesque Africain dans une combinaison bleue. Et c'était le mécanicien qui a en effet aurait sans doute pris la place du copilote.
Cabin crew, landing position, please.
C'était donc le récit de mon premier contact avec l'aviation africaine. Et encore 20 ans après, je ne peux m'empêcher de sourire en pensant à ces 50 passagers qui attendaient dans un avion sans équipage.
Il vous a fait sourire aussi d'ailleurs, Aldebert.
Bah, et c'est quand même assez rock'n'roll en fait, hein, son aventure là.
Ouais, c'est assez rock'n'roll. Vous avez une histoire rock'n'roll qui vous est arrivée ailleurs, peu importe où elle est ailleurs.
Oh, il y a toujours des trucs qui se passent comme ça. Je pense à un voyage en Tchéquie et en Slovaquie. Je pense à un voyage à Bali aussi où on se fait arrêter par des gendarmes un peu qui ont l'air un peu bidons, on sait pas trop, donc ça s'arrange avec des petits pourboires, des voilà, des trucs où c'est souvent assez long, et ça c'est le genre de truc qui me stresse, parce que alors Bali, j'ai un très beau souvenir de Bali, c'est vraiment les plus belles vacances que j'ai pu passer, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque avec ma femme et c'était tellement simple.
Il y a un lien de cause à effet ou
Non, je pense pas. Heureusement, parce qu'avec des enfants en plus, quand on a comme ça des trucs, on sait pas trop comment ça va tourner, c'est toujours un peu flippant. Et du coup, on se faisait arrêter constamment parce que ces mecs-là repéraient les voitures de location. Donc, allez, hop, c'est bon, vous rangez sur le côté. Ben oui, parce que vous avez... Alors, c'est toujours des prêtres complètement bidons. Ben si, parce que quand vous avez mis votre clignotant à droite, vous avez regardé le ciel. On peut pas faire ça ici, monsieur. Ah, d'accord, ok, combien je vous dois. Puis voilà, c'était ça le truc. Mais c'est toujours des trucs bidons. Voilà, le genre de petites mésaventures qui arrivent souvent.
Si on revient un peu en arrière, Aldebert, pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à la chanson pour enfants, puisque je le disais en tout début d'émission, en fait, vous avez commencé par faire de la musique, de la chanson française relativement classique, sans...
Oui, mais tout à fait.
Sans
ouais.
être désagréable. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'aller vers ce public-là?
Bah, c'est quelque chose que, entre guillemets, je devais accomplir. Pourquoi? Parce que simplement, dans le répertoire que j'avais à l'époque, donc entre 2000 et 2007, il y avait déjà beaucoup de chansons sur l'enfance. J'écrivais déjà, en fait, sur l'enfance. Est-ce que j'ai continué pleinement après avec Enfantillage? Et du coup, j'ai glissé un peu naturellement vers cet univers qui est devenu Enfantillage. Et je voulais réaliser ce truc-là. Je savais pas comment faire parce que, et encore maintenant, c'est ce que je dis assez souvent. Je sais pas écrire une chanson pour enfants au sens exclusif, c'est-à-dire la chanson pour les petits telle qu'on la conçoit ou qu'on la concevait. Je sais pas la faire. J'ai une image. Je sais très bien par qui elle est représentée, cette chanson pour enfants aujourd'hui. Mais moi, j'avais envie de proposer quelque chose qui soit un peu alternatif et qui parle aussi beaucoup aux parents. Je l'ai fait peut-être inconsciemment, aussi peut-être parce que je venais d'un répertoire adulte entre guillemets. Et on m'a souvent identifié comme chanteur pour parents aussi. Ça m'a fait marrer. Mais c'est vrai. Moi, je vois sur les concerts, la tournée, le public est composé d'enfants, évidemment, de parents et de grands-parents. Et de voir ces trois générations connectées ensemble, c'est génial. Je me dis bon ben voilà, c'est cool. L'échec serait de voir des parents dans leur téléphone pendant le spectacle. Ça serait la défaite absolue. Donc voilà, j'ai l'attention des trois générations et je suis très content, ça se fait quoi.
Et qu'est-ce qui vous a emmené à ce thème-là? Est-ce que c'est parce que vous aviez envie de retourner vers l'enfant?
Oui,
est-ce
oui,
que
oui.
c'est un voyage dans le temps qui vous intéresse en permanence ou...
Mais c'est ça, parce que ça m'obsède complètement. Ça m'obsède cette période où on se construit quoi. C'est une période, l'enfance, où tout est violent. En fait, toutes les émotions, tout est nouveau, tout est long, le temps s'étend, s'étire. Et du coup, je trouve que c'est une période très riche en événements, en émotions. Et moi, je vais souvent, du coup, puiser là-dedans. Parce que, voilà, c'est quelque chose que j'exprime aussi beaucoup dans mes chansons. Quand on est adulte, c'est pas plat, hein, on est d'accord, mais c'est quand même plus calme. Une fois que, voilà, toutes les choses sont un peu posées, établies.
Et ça dépend des périodes.
Ça dépend des... Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai un souvenir d'une enfance, même si j'ai eu une enfance complètement normale et calme, et assez classique finalement, de quelque chose d'un voyage assez fou, vraiment quoi. Il y a une chanson comme ça qui est en chantier, qui s'appelle « L'arnaque ». Qui est une chanson qui est inspirée par le pyjama de mon deuxième. Il avait cette phrase de Peter Pan, ne grandissez pas, c'est un piège. Et je trouve cette phrase tellement incroyable. Et voilà, c'est l'idée de cet adulte qui dit aux enfants, ben, profitez bien, parce qu'après, il se passe plus rien, c'est une arnaque, en fait, quoi. Voilà. Et puis finalement, donc voilà.
L'idée, et vous l'avez vécu comme ça, ce voyage un peu fou de votre enfance? Vous avez eu l'impression qu'à un moment donné, vous arriviez à un âge où vous vous êtes fait un peu arnaquer?
Assez tôt, ouais.
Assez tôt.
Assez tôt. Oui, non, mais voilà, je replonge toujours et mon métier me permet justement de garder ce lien, garder ce cordon avec l'enfance, quoi. Et ça me tient debout et ça me donne de l'énergie. Mais si je sais pas si je faisais par exemple aujourd'hui un métier normal, entre guillemets, j'aurais du mal, je pense, quoi. J'ai besoin de l'enfance, en fait, quoi. Ça m'aide, ouais, vraiment.
Comme on est en direct, les gens nous écoutent, Aldebert.
Il y a des messages et tout.
Il y a des messages. Bertrand nous dit sur l'application de France Inter. Bonjour. Bonjour Bertrand.
Bonjour Bertrand.
Je suis un vieil enfant et j'aime écouter Aldebert qui réveille en moi mon enfant intérieur. Il y a toujours beaucoup d'émotions en l'écoutant et je partage avec mes enfants en chantant avec eux. Merci.
Merci, c'est gentil.
Toujours beaucoup d'émotions. Est-ce que vous avez conscience, Aldebert, que quand on fait de la musique pour enfants et pour parents, on réveille aussi des sentiments que l'on ressentira toute sa vie. C'est-à-dire que moi, je me souviens de chansons que j'écoutais enfant, par exemple, il y a celle-là.
Tant que chante la colombe par-dessus le toit, tant que ça vend que la nuit tombe.
Je me rappelle absolument par cœur, mais je vais pas vous faire cette offense.
Ah, c'est dommage.
Manique avec Petrouchka. Avec des sonorités russes d'ailleurs.
Ouais. Ça, je me demande si je l'avais pas en 45 tours aussi. Ce...
On doit pas être aussi éloigné que ça en âge. Le fait qu'on se souvienne finalement toujours de vous, est-ce que vous l'avez en tête ça? Les gens qui vont se souvenir de vous pour toute leur vie.
Ouais, j'ai du mal à. J'ai un peu du mal avec cette idée-là, ça me fait un peu peur en fait. Mais c'est un peu troublant, quoi. C'est un peu troublant. Moi, il m'est arrivé comme ça de faire des raccourcis avec la chanteuse pour enfants que j'écoutais beaucoup gamin, c'était Anne Sylvestre. Et ma maman, elle m'avait acheté un album sur. C'était pas des consignes, des trucs sanitaires, mais un peu des choses à faire, des choses utiles à apprendre, des chansons un peu d'éveil comme ça, parmi les fabulettes. Et il y avait une chanson qui disait Maman, j'ai les mains sales. Et puis après, il y avait Pour dessiner un bonhomme. Et ces petites phrases, en fait, avec ce timbre-là, c'est vraiment des tatouages, quoi. On est marqué à vie, comme vous l'avez dit. Et sur Enfantillage 1, j'ai invité Anne Sylvestre et d'un coup, pouf, je l'entends en studio, j'entends ce timbre. Wow! Alors là, pour le coup, c'est violent parce que je me retrouve, c'est la première, c'est la mémoire en fait, c'est la première chanson que j'ai entendue et qui résonne.
Ce sont des chansons qui restent en mémoire, c'est-à-dire que voilà, nous qui parlons de mouvement dans cette émission, eh bien ça, les chansons que l'on écoute vraiment enfant, dans notre petite enfance, il reste
c'est
là
dingue.
Pour toujours.
C'est un truc de dingue, oui, complètement.
Et ça, c'est assez fascinant. Et c'est pareil, un peu partout dans le monde, on vous emmène.
Do, 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 wanna
au Gabon.
Nana.
C'est long.
Do, 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 wanna nana.
Au Maroc.
أتار وان السيما الجير دي سلي أتغري ربي يا دميس دمامان أتار وان السيما الجير دي سلي أتغري ربي
أتغري
ربي أمرا مشاكوري
Mexique.
Arrivé llegando el caminito.
J'adore la mexicaine.
Ouais, arrivé
llegando el caminito.
Ça donne très envie de danser.
Carrément.
Est-ce que il y a un langage, une musique qui est propre comme ça aux comptines finalement du monde entier, Aldebert?
Dans ces comptines, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui les relie, c'est, il y a une douceur, en fait. Il y a une douceur, et puis il y a quelque chose de, il y a un sourire, en fait, dans ces musiques qu'on perçoit, rapidement. Et moi, je ressens ça vraiment, pourtant, on a fait un sacré voyage, là, avec ces extraits. Mais, à chaque fois, il y a ce truc en commun, quoi.
Ouais. Il y a beaucoup d'amour en fait dans les chansons comme
mais
ça
oui,
pour les enfants. Il y a effectivement beaucoup de sourires, mais beaucoup d'amour aussi.
Et c'est ce que moi j'essaie d'exprimer aussi. C'est une sincérité en fait. Il y a quelque chose. Voilà, il n'y a pas d'artifice quoi. C'est direct et ça c'est très important je trouve.
C'est pas un public avec lequel on fait semblant.
Non, et dès qu'on fait semblant, ça se voit et c'est foutu. Non, on peut
ah
pas
oui,
tricher.
Un enfant dans ces cas-là, bah s'en va, tout simplement. Hein,
mais exactement, c'est exactement ça.
Barba Gallo, le batteur de Tame Impala, nous emmène en solo pour un titre parfait sur la route de la plage, Ma Falaise sur France Inter.
Thank you. patience, patience, patience. Contemple les marées, les marées, les marées. Contemple les marées, les marées, les marées. Oui, patience, patience, patience.
Bagalo sur France Inter. Nous sommes avec Aldebert pendant encore 10 minutes, 10 petites minutes pour profiter de sa présence. Aldebert, 14h50 et je vous ai toujours pas souhaité la bienvenue sur France Inter. Apparemment, on vous retrouve dès la rentrée.
Ah oui, 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 pareil.
Ah oui, c'est pour ça, parce que là, vous vous dites...
Oui, je vous dis, tiens.
Je sentais quand même dans votre regard vraiment,
un petit flottement.
Un petit flottement, mais pourquoi me dit-elle ça? Oui, vous arrivez à la rentrée, j'ai lu ça, un tweet de Laurence Bloch, la directrice de France Inter, qui vous souhaitait la bienvenue.
Bah oui, oui,
vous
voilà.
Vous savez quand, quel jour, ou vous savez pas encore?
Alors, ce sera le mercredi.
Ouais.
Sous quelle forme, je sais pas encore.
Ah oui, bah c'est voilà. Y a l'été pour y penser.
Ouais, c'est un peu ça l'idée, et donc je vais appeler l'équipe de Par Jupiter pour voir ce que je peux faire. Déjà, mais je suis ravi. Pour moi, c'est un truc incroyable. J'ai l'impression d'attaquer un nouveau métier, finalement, quoi.
Et vous avez déjà été tenté, justement, par d'autres métiers, d'autres univers?
Tout, 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 tout. Enfin, tout, pas tout. Mais la radio, c'est un format, c'est un truc qui est super. C'est un outil extraordinaire. Le cinéma, le dessin, voilà, tout m'intéresse.
Ah, vous êtes vraiment à touche à tout en termes d'art?
Oui, enfin, voilà, le dessin, moi, j'ai vraiment grandi avec ça. C'est ce qui m'a permis de raconter mes premières histoires avant d'écrire des chansons. Et c'est toujours assez présent. Et j'écris les chansons comme je dessine. C'est-à-dire que c'est très, très visuel. Voilà, dès qu'un médium permet de raconter une histoire, ça m'intéresse.
Ouais. Vous l'écrivez d'abord en bande dessinée?
Non, non, j'aimerais bien.
Ah ouais, ça serait génial.
À la Spar, par exemple, faire un truc. Ouais. Non, j'ai pas ce talent-là, évidemment pas. Mais par contre, j'imagine et je vois des fois, je vois carrément mes potes ou mon entourage, mon environnement en dessin. Je fais, mais ça, c'est des cases en fait. C'est des cases d'essayer une histoire et pouf, la chanson est là.
Et vous voyez les mots qui apparaissent ou c'est pas aussi imagé que ça?
Il faut que j'aille consulter en fait, c'est ça que vous...
Ah non, 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 non.
Ça sent le divan.
Ah bah, mais... Abraham.cheval nous disait la semaine dernière qu'il avait l'impression parfois d'être dans un arc-en-ciel. Donc
on peut
aller très loin, alors je vous laisse nous raconter à quel point votre imaginaire va loin.
Ben oui, c'est-à-dire que je vais un peu le transformer. Tout d'un coup, ça prend l'apparence d'une planche de bande dessinée et ça c'est vraiment un outil aussi, ouais, le dessin, pour ça.
J'ai une mission pour vous qui n'a rien à voir avec le dessin, Aldebert, puisque chaque jour, pour terminer cette émission, on fait le portrait d'une exploratrice. En l'occurrence, cette semaine, on plonge dans la vie d'une sacrée femme. Elle s'appelle Gertrude Ederle. Hier, on l'a quittée au sortir de l'adolescence. Trudy, son surnom, est alors particulièrement douée pour la natation, et ce depuis toujours, sans même prendre de leçons. Elle établit moult records du monde, ramène plusieurs médailles des Jeux Olympiques de Paris, mais ce qu'elle vise, elle, c'est la traversée de la Manche. Donc si vous le voulez bien, Aldebert, vous êtes pour les prochaines minutes Gertrude Ederle. Nous sommes en 1925. Quelques semaines plus tôt, Gertrude Ederle a battu le record de la traversée de Battery Park, de la pointe sud de Manhattan, à New York, jusqu'à Sandy Hook, dans le New Jersey. 7 heures, 11 minutes et 30 secondes pour plus de 30 km de nage libre. Elle bat alors, au passage, le record masculin et conservera ce record pendant les 81 prochaines années. Elle se prépare donc pour cette traversée de la Manche, du Channel, comme disent les anglophones. 18 août 1925, elle prend position, au nord de la France, se jette à l'eau, vise l'Angleterre à 34 km.
Je suis prête. Allons-y. Je ne peux pas attendre plus longtemps de flirter avec ce vieux monsieur Channel. D'ailleurs, c'est le seul homme avec lequel j'ai envie de flirter.
C'est donc le seul homme avec lequel elle a envie de flirter. Les premiers kilomètres, tout se passe à merveille. La mer est d'huile. Mais ensuite, pardonnez-moi l'expression, c'est une autre paire de manches. Et la mer s'agite, de plus en plus. Gertrude Eder, le père des forces, elle s'enfonce de plus en plus dans l'eau sombre. Après 8h45 de lutte contre les éléments, elle renonce.
J'ai abandonné, exténuée, inconsciente, parce que les lames et les vagues m'avaient fait boire de l'eau salée.
Trudy est à bout de force, mais elle se retrouve soudain au milieu de l'agitation terrestre. L'Association américaine de natation féminine en a pour l'argent, investi dans ce qui devait être un exploit, lui demande des comptes. Comment a-t-elle pu ne pas y arriver? Était-elle assez bien préparée? Il faut bien trouver un bouc émissaire. Ce sera son entraîneur, Jabez Wolf.
Il m'a fatigué au cours de la préparation et puis, lors de ma tentative, il m'a sorti de l'eau alors que je pouvais encore continuer à réussir.
Entraîneur, dont elle se sépare, quand bien même les observateurs l'avaient vu avoir des vertiges et nager de plus en plus lentement. Une nageuse raconte « Tout à coup, nous vîmes son bonnet jaune s'enfoncer à une dizaine de centimètres dans l'eau. » Faut-il arrêter d'y croire ou refaire une tentative ? Gertrude Eder en est certaine. Elle a la manche dans les bras, dans les jambes. D'aucuns disent que musclée, les épaules solides, très athlétiques, elle en a les capacités. Certains pointent d'ailleurs régulièrement son poids.
Je mange ce que je veux quand je veux.
Après tout, nager de la France à l'Angleterre, la chose n'est alors pas inédite. 51 ans plus tôt, les 24 et 25 août 1875, le capitaine britannique Matthew Webb est devenu le premier homme à traverser la Manche en 21 heures et 45 minutes. Mais le Channel attend toujours sa première conquérante E. L'année d'après, en 1906, elle se relance à l'eau. Et cette fois, Gertrude Ederle veut la victoire. La suite demain, le podcast dans son intégralité en fin de semaine. Gertrude Eder, et si vous aimez ces podcasts avec des exploratrices, vous pouvez retrouver l'intégralité du portrait d'Isabelle Eberhardt, que l'on a raconté la semaine dernière dans le podcast de Chacun sa route. Vous êtes un bon nageur, vous, Aldebert ?
Moyen.
Et vous traversez la Manche régulièrement ?
Oui, bien sûr. C'est mon projet pour cet été.
Pas forcément à la nage, hein, mais...
Ah, de temps en temps,
ouais. Ouais, de temps en temps. Aldebert, cette émission s'appelle Chacun sa route, chacun sa route, chacun son chemin. Quel message passer à votre voisin ?
Merci beaucoup.
Ah non, c'est ça, merci beaucoup votre message au voisin.
Mon message, c'est oui, c'est voyager, mais sans forcément parcourir des distances incroyables, quoi. Le voyage est partout, tout le temps. Il est même souvent assez proche finalement, quoi. Donc c'est pas forcément l'image de cette couverture du routard, vous savez, ce moustachu qui porte la terre en sac à dos comme ça. Le voyageur, c'est déjà quelqu'un qui rêve.
Je me souviens de cette chanson de Mes souliers sont rouges, c'était partir ailleurs quand c'est pas loin, quand c'est au bout du jardin. Ah. Merci beaucoup Aldebert d'avoir passé cette heure avec
nous. C'est bien agréable, merci à vous.
Je vous remercie. Chacun sa route, épisode 7. Revenez demain, on parlera de feu et de réchauffement dans la première demi-heure et on suivra le chemin de la romancière Nina Bouraoui à partir de 14h. Merci à Céline Dubois, Claire-Sophie Collet, Thomas Omaro, Louise Cognard, Vera Louderide et Claire Tesser qui ont préparé cette émission. Sachez aussi que l'on a un carnet de voyage, un passeport de cette émission et que vous pouvez aller voir tous les mots de nos invités sur le compte Instagram Chacun sa route France Inter. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte. Vos voyages musicaux, faites comme Climène aujourd'hui qui nous raconte sa balade dans le Vercors.
T'arrives dans un endroit où t'as une immense vallée, t'es entouré par la montagne et ça m'a fait penser au château ambulant. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais à un moment, il crée une porte pour elle, où c'est un espèce de champ avec plein de fleurs, où elle est là, oh mon dieu, à coup, je sais plus comment il s'appelle, elle est trop contente, et ça m'a vraiment fait penser à ça. Il y avait plein de super belles fleurs de montagne, T'avais des vaches, t'avais les cloches des vaches qui résonnaient. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'était l'un des plus beaux paysages que j'ai vu. Parce que t'avais tout, quoi.
C'est vrai que quand on entend cette musique, on a envie d'imaginer des paysages, Charline Roux.
Oui, puis en plus, vous avez dit le mot magique Vercors, donc moi, je pense à Bachung tout de suite. La nuit, je mens. Voilà.
C'est vrai.
Aujourd'hui, le top 5 de Ludivine Sagné.
Oh, ouais, génial.
Absolument. Et je salue notre nouveau collègue. Bonjour, Albert.
Bonjour.
Les gens vous accueillent, hein. Les gens sont très contents.
C'est incroyable.
Contents.
Ça me met une pression de dingue.
Bienvenue.
Quand même.
Voilà. Vous écoutez France Inter, Charline Roux, dans quelques secondes.